Et parler de basket. Alors maintenant, on va parler de handball avec le président de l'USDK, M. Jean-Pierre Vandal. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Voilà, donc maintenant, il fait noir, hein, M. Vandal. Hein, on a changé d'heure, on est...
Oui.
Ça change, hein, c'est incroyable. Et plus frais, on a du vrai temps de tout ça qu'on arrive comme ça. Hein. Alors, on va parler de deux matchs. Une frustration quand même avec cette défaite de l'USDK à Aix-en-Provence où vous avez fait un match comme il faut, bien un bon match. Moi, j'ai vu ce match très très bon. C'est vrai, dans le Money Time, malheureusement, vous perdez. Et puis le long match, disons, contre Nîmes, chez vous, où là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est pas trop difficile à comprendre à partir du moment où... on a notre meneur de jeu et notre pilier principal de la défense qui ne sont pas sur le terrain puisqu'il y a Cornel Nagy qui est blessé.
Ouais, donc, bien sûr.
C'est une pièce maîtresse pour l'USDK aujourd'hui. Bon, je pense qu'on dans notre recrutement, j'aurais pu trouver quelqu'un qui puisse faire le relais. Tant sur le problème de défense, il y avait Matic Sioulesnik, donc pivot de la défense, hein, vraiment un gaillard de plus de 2 mètres qui fait 130 kilos, qui malheureusement prend une béquille au début de match et il doit sortir du terrain. Donc deuxième blessé sur cette rencontre, alors tout à fait en début de match, ça nous paye une analyse. Et Diego Pinheiro qui était aussi en souffrance avec le genou, qui ne peut pas se donner à 100%. Donc effectivement, un match difficile. Puis, vous savez, quand ça marche pas sur un poste, ben il y a un certain nombre de facteurs qui font que on n'y est plus, on n'est plus dans le match, on se bat plus suffisamment sur les ballons. Et je pense qu'on a pris une correction de Nîmes, qui est quand même l'équipe en forme du moment.
Ah, bien sûr. Ouais, mais enfin, je veux dire, ça fait 16 buts. Quelquefois,
non, pas 16 buts. Hein.
Non, mais vous avez mec qui a marqué que 16 buts.
Bien sûr, oui.
Contre Nîmes. Ah oui, vous parlez du match précédent, là.
Oui.
Ah oui, Aix-en-Provence, je veux dire, là, Aix-en-Provence, moi, je vous voyais gagner à ce match, franchement.
Ouais. Je crois qu'on perd dans le Money Time, c'est
quand même. Ah ouais, c'est. Parce que là, franchement, tout le monde a joué, tout le monde a bien défendu. Les gardiens, notamment, c'était Oles Graham qui était bon. C'était Samir Balassem sur ce match qui était bon, hein. Et je veux dire, voilà, quoi.
Ouais. Globalement, j'ai pas mon plan.
Non.
Effectivement, on n'a pas marqué beaucoup de buts sur le match.
De Nîmes.
Sur le match contre Nîmes. Ouais. Bon, c'est une constatation. Non seulement en défense, on n'y était pas. Et je vous dis, on a loupé tout ce qu'on a pu.
Ouais, bien
alors,
sûr.
Je ne sais pas, ce gardien, on était le gardien de Nîmes, qui est un bon gardien.
Oui, Desbonnets, bien sûr.
Mais je ne sais pas, il y a un genre de complexe qui est fait sur ce gardien de but-là, parce qu'il n'est pas très grand. C'est peut-être pas le meilleur des gardiens. Et à chaque fois qu'on joue contre lui, il nous fait le match de l'année. Et nous, on n'arrive pas à repasser devant.
Et puis, c'est bien. C'est bien Benassen, il fait pas les arrêts en première mi-temps, donc c'est Oles Graham qui a fini. Heureusement qu'à la fin, malgré tout, qu'il fait quelques arrêts, parce que le score encore a été plus conséquent pour Descartes, hein, indirectement.
Oui, de toute façon, c'est un échec, c'est une remise en question, c'est à nouveau un travail à fournir et à retrouver une équipe qui soit vaillante. Alors j'espère que là, on va faire le déplacement à Saint-Raphaël ce week-end pour la Coupe de la Ligue. Je sais aussi que Saint-Raphaël doit se battre et doit redorer son blason parce qu'ils font un très mauvais début de saison. Là, ils sont en train de reprendre un peu de Paul de la Bête. C'est pas au meilleur moment qu'on va les rencontrer sur ce match de Coupe de la Ligue. Et puis ensuite, bon, bah, c'est chez nous, à Chartres, là où il faudra montrer ce dont on est capable.
Ouais, c'est vrai que le premier match du mois de novembre, ce sera Chartres. Hein. Voilà, encore non, que là, vous allez rencontrer Saint-Raphaël ce week-end, hein, en Coupe de la Ligue.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai, pour continuer en Coupe de la Ligue, il faut gagner. Hein. C'est sur un match.
C'est
hein, voilà,
pour des matchs éliminatoires.
Ouais,
hein,
voilà.
Évident, on aimerait bien tout gagner, exister un peu partout. Bon, je pense que là maintenant on va retrouver l'équipe au complet. J'espère que Cornel Nagy, ben il peut pas porter de masque pour jouer. Donc c'est ce que je crains, c'est qu'on lui mette un coup sur le nez en début de match. Parce que vous savez comment c'est, le joueur qui est malade ou qui est blessé. En général, il prend un coup justement au mauvais endroit.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Je vais pas dire que c'est notre pièce maîtresse, mais presque. Hein.
Ouais,
quand il n'est pas sur le terrain, et quand il est sur le terrain, on voit vraiment la différence.
Ouais. Non, mais je veux dire, alors à ce sujet-là, moi, ce que je pense, quand le carton rouge de Tobago, hein, qui est, c'est vrai, il y avait un, mais il aurait pu avoir carton rouge également pour, c'était un coup volontaire pour le nez cassé de Karen Agi,
Mais complètement,
indirectement.
complètement, mais les arbitres voient une action ou alors il y a notamment sur l'erreur de défensive de Taboada qui est un petit peu en retard, qui essaie d'écarter le joueur en mettant un coude en avant. Je pense que là c'est dommage, c'est dommage. Il est un peu en retard, il y a vraiment une faute. Bon, je pense que c'était pas une faute méchante au point de mettre un carton rouge et surtout de mettre un rapport. Donc il est passé au conseil de discipline
Ah
aujourd'hui
oui.
et il a hérité d'un match de suspension, donc
Ah, d'accord.
vraisemblablement sur le match de Chartres à domicile.
D'accord. Ouais, quand même, il y a eu un match, bon, c'est
Mais
vrai.
il y a eu des erreurs et des fautes beaucoup plus graves, hein, comme un joueur de Saint-Raphaël qui vient frapper la tête de Pelayo.
Ouais, bien sûr.
Il a pas 2 minutes, il a pas de carton.
Non, 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 c'est
Et
vrai.
en fait, en revisionnant les images du match, la commission de discipline l'a quand même convoqué. Donc, il passait également aujourd'hui. Alors, vous savez, les arbitres ne peuvent pas tout voir sur un match. On peut pas voir toutes les fautes ou les fautes qui paraissent méchantes quand on les regarde, quand on les analyse, quand on les découpe. On peut s'apercevoir que ce sont des fautes défensives ou d'un retard au poste de défense. Mais il n'y a pas des fautes extrêmement graves
Non.
qui font l'objet d'un compte-rendu comme c'était le cas pour Taboada.
Ben moi, de toute façon, Monsieur Vandal, vous êtes de mon avis, le handball, je veux dire, il est de plus en plus physique, hein. D'année en année, il est de plus en plus physique.
Alors, on est dans un sport qui ressemble beaucoup plus au rugby qu'au basket,
Ah ouais,
c'est
voilà,
évident.
ouais, bien sûr,
C'est un sport de contact, un sport physique, un sport où on donne beaucoup sur le terrain, malheureusement. Et puis on a aussi un physique de joueur qui a changé. Si vous voulez, si vous regardez les matchs il y a 20 ans, les matchs de l'équipe de France, la taille moyenne était beaucoup plus petite sur le terrain des joueurs. Maintenant, la plupart des joueurs sont pas loin de 2 mètres, quoi. C'est le minimum pratiquement pour être sur le terrain.
Ah, bien sûr.
Donc on voit bien que le physique s'est transformé, c'est devenu un métier, un jeu, vraiment un jeu physique, un jeu de contact.
Ouais, bien sûr, mais enfin, les commentateurs, quand même, sur Bein, ils disent quand même, il y a une certaine limite qu'on arrive, c'est de plus en plus viril, enfin, les contacts, il y a une limite à respecter, à directement, quoi. Les arbitres, quelquefois, ben, ils peuvent siffler sur n'importe quel action de jeu, indirectement, quoi.
Oui, mais c'est vrai que le métier d'arbitre n'est pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient un vrai métier. Les joueurs sont des professionnels. Je vois pas pourquoi aujourd'hui nos arbitres seraient des amateurs. Au contraire, moi je pense qu'ils doivent se former en dehors des matchs qu'ils arbitrent. Il faut qu'ils assistent à des réunions, qu'ils redécoupent les images de leurs matchs, qu'ils aillent faire des formations, qu'ils soient un peu plus encadrés qu'aujourd'hui. Je pense que l'arbitrage professionnel va progresser quand ces arbitres, bah, ils n'auront pas d'autre métier que de faire celui sur le terrain.
Ah, bien sûr. Après, bon, sur des coups, les coachs, ils rouspètent. Pour le peu qu'ils rouspètent, ben, il y a certains coachs qui sont visés, notamment le vote, c'est carton jaune.
Ouais, Patrick Casal, bah, il s'exprime contre toutes les injustices sur le terrain, mais il s'exprime quelquefois un peu trop fortement.
Oui.
Alors effectivement, il faut savoir garder ses nerfs, faut montrer son mécontentement parce que je pense que ça influence quand même la suite du match dans la tête des arbitres quand ils voient qu'un coach n'est pas content d'une décision qui était prise. Bah, quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des compensations qui sont données sur le terrain, donc cette forme de violence quand il s'exprime, ça peut porter aussi en notre faveur.
Ouais. Ouais, bien sûr. Mais enfin, c'est moi je vois que d'année en année, c'est de plus en plus viril, hein, directement. Je veux dire, il y a des,
Oui,
bah, je veux
c'est
dire,
vrai.
moi, il y a une limite. Hein, je me répète, il y a une limite. Il y arrivera des fois des blessures beaucoup plus graves que qu'un nez cassé ou quoi que ce soit. Voilà quoi, directement.
Ouais, nez cassé, une commotion
Ouais,
cérébrale,
voilà, bien
vous
sûr,
savez,
bien sûr,
ça peut arriver,
bien sûr.
hein.
Voilà quoi. C'est
Même, vous savez, un ballon qui est lancé très violemment qu'un gardien peut prendre dans la tête, à la vitesse où les ballons arrivent, il y a toujours danger. Tout est dangereux à ce moment-là dans le sport.
Bien sûr. Bon, c'est vrai que quand sur un amarrage de 7 mètres où le joueur vise plus ou moins indirectement la figure du gardien, bon, il y a une sanction systématiquement,
Oui,
mais il ne le
c'est
fait pas
carton
exprès.
rouge, hein. Ouais, non, il le fait pas toujours. Quelquefois, c'est dans l'énervement
Bah ouais, voilà.
ou dans le manque d'adresse. Mais c'est vrai que un joueur, si le gardien ne bouge pas et qu'il prend la balle de pleine face, effectivement, là, c'est un carton rouge pour le gardien de but.
Ah voilà, bien sûr, ça c'est et apparemment, moi je dis que le joueur ne le fait pas exprès, hein. Moi je pense
Pas
pas, hein.
toujours, non, non, pas
Non,
toujours,
non,
non,
pas toujours,
c'est
hein.
vrai,
C'est
c'est
vrai
vrai.
quoi,
Mais
voilà.
il y a le stress, l'énervement. C'est vrai que le stress, bizarrement, c'est plus dans la tête du tireur que du gardien de but. Parce que le gardien de but, si vous voulez, sur un tir, sur un jet 7 mètres, bon, s'il laisse passer le ballon, on va pas lui en vouloir. C'est pas facile d'arrêter un ballon à toute vitesse, presque à bout portant. Par contre, le tireur qui loupe son tir à 7 mètres, mieux on lui en voudra. On va dire, voilà, t'as loupé un but tout fait, c'était un penalty, c'était une chance d'avoir un but supplémentaire. Et donc le stress est effectivement dans la tête du joueur et pas dans la tête du gardien de but.
Donc la trêve internationale, je pense qu'elle est bénéfique pour votre club pour repartir sur une bonne dynamique, notamment en Coupe de la Ligue samedi prochain et puis contre Chartres, disons, la semaine prochaine.
Alors, j'attends beaucoup. Je sais très bien que le match de Saint-Raphaël là-bas ne sera pas facile. J'attends beaucoup du match de Chartres pour redonner confiance et continuer cette fin de première partie de championnat sous de bons auspices. Oui.
Ben voilà, bon après Chartres, il sera, bon voilà quoi, c'est vrai, après vous recevez Tremblay, c'était des matchs disons moins compliqués, hein, directement.
C'est des matchs à notre portée. C'est des
Voilà,
matchs à notre
voilà.
portée. Et effectivement, mais vous avez, je crois que sur 14 équipes du championnat, il y en a au moins 10 qui peuvent être européens d'une saison sur l'autre. Donc, ne n'y trompons pas. Aucun match n'est facile aujourd'hui.
Ouais. Donc il y a une équipe qui domine, c'est Paris, hein, c'est voilà, et après il y a derrière il y a au moins 5-6 équipes qui peuvent lutter pour les deux
Oui,
trois premières places,
oui,
quoi.
oui. Bon, Paris qui a au passage un peu plus de 4 fois notre budget.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est 4 fois notre budget plus l'assistance logistique du football. Donc ils ont des moyens que nous n'avons pas.
Ah voilà.
Ensuite, vous avez Montpellier, qui est le deuxième budget du championnat, qui existe au plus haut niveau depuis des années, qui a une belle expérience de toutes les rencontres, qui a gagné d'ailleurs la Ligue des Champions.
Ouais,
Donc c'est une belle équipe. Ensuite, Nantes, qui a progressé très fortement ces dernières années, qui a une grande salle, et c'est un club qui a énormément travaillé aujourd'hui, donc qui est capable aussi de prendre la deuxième place du championnat. Je pense que ce trio-là est difficilement atteignable aujourd'hui. Aix, qui devrait progresser, puisqu'ils ont aussi des moyens avec un budget qui a progressé avec leur grande salle, qui est aussi la quatrième équipe. Après, derrière, je pense que tout le monde peut y arriver, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors justement, Monsieur Vandal, vous parlez de salle. Il y avait un article dernièrement sur le supplément de la Voix des Sports où j'ai vu qu'il y a pas mal de villes qui demandent des salles, hein, pour agrandir, disons, au niveau spectateur, au niveau sponsoring, enfin, au niveau partenaire, tout ça.
Oui.
Bon, je crois que vous, je vois que c'est quand même bien parti, là, hein.
Moi, ça me semble acté, mais si vous voulez, je me répète, tant que je n'ai pas vu les grues arriver sur le terrain et des ouvriers qui donnent des coups de pioche, moi, je serai certain du projet lorsque je verrai les premières pierres arriver.
Voilà, comme pour le tunnel, pour le canal Sandler, et, qui a mis tant d'années pour se faire et qui, bon, maintenant, c'est à qui il va se faire, quoi. Mais on n'a pas encore revu ni les pioches ni les pelleteuses non plus, voilà. Donc,
vous savez, pour nous, c'est tellement indispensable que je le dis, mais ouvertement, officiellement, que si cette salle-là n'arrive pas rapidement, je veux dire, on aura pris beaucoup de retard sur les autres clubs.
Ah, bien sûr.
Et je pense que on arrêtera de progresser, voire d'exister, peut-être dans le championnat-là.
Ouais.
Donc c'est vraiment un outil de survie pour ce club.
Ouais. D'année en année, vous prenez du retard, quoi, voilà.
Voilà.
Ouais, voilà. Et après, il y a un retour, quelquefois, indirectement.
Oui, enfin bon, j'espère ne pas en arriver là. Le maire
non, bien sûr, mais je veux dire, voilà quoi.
C'est m'a annoncé qu'il commençait les études, que les travaux allaient commencer dans la foulée. Donc voilà, je sais qu'il y a des échéances électorales et qu'aujourd'hui, jusqu'au mois de mars 2020, c'est difficile de commencer à attaquer les travaux. Donc, mais dès le début d'année prochaine, va falloir que ça aille tout très vite pour que moi, j'espère pouvoir rentrer dans cette salle dans la saison 2022-2023.
Voilà, mais sachant que, bon, vous parlez de la communauté urbaine, de la ville de Dakar, également, il y a une grande partie de la région également qui veulent faire une salle plus ou moins régionale chez vous.
Xavier Bertrand, par la voix de Florence Marizeau, vice-présidente au sport de la région, nous a communiqué un montant de 12,5 millions qui serait alloué à cette construction de salle, ce qui est vraiment pas mal, peut-être pas suffisamment aux yeux d'un communautaire venu de Dunkerque aujourd'hui, parce que une salle, pour qu'elle soit correcte, qu'on puisse recevoir notre public dans les meilleures conditions, je pense qu'on sera plus près d'un projet global de 30 millions.
Mmh. Ouais. Bon, si vous auriez une salle de 5 à 6 000 places, vous serez content.
Moi, j'applaudis.
Ah,
j'applaudis.
Ah, voilà, vous serez.
C'est ce que j'attends pas mieux d'ailleurs.
Ah, ouais, non, bah places, non, de toute façon, vous n'aurez pas 10 000 places, ça, c'est certain.
Non, mais 5-6 000 places, pour moi, c'est très bien. C'est
voilà.
Très bien, je vous dis encore, 5 000 places, c'est très bien.
Voilà, c'est bien. Et puis, un outil neuf et indispensable.
Exactement.
Voilà. Bah, monsieur Vandal, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite donc un bon match à Saint-Raphaël. Que Saint-Raphaël, vous l'avez battu en championnat 27 à 25, hein, à ce que je sache.
Oui.
Et puis,
oui,
après,
ouais.
Chartres, le promu, hein.
Oui, le promu, mais le promu qui.
Ah, ouais, 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 ouais.
Qui a fait le joueur professionnel.
Ah, ouais, qui a gagné quand même, hein.
Non,
voilà,
non, non,
Chartres a gagné, hein. Notamment contre Istres 25 à 23.
Hein. Et je vous dis. Chartres a déjà évolué en Lidl Star League, hein. C'est la deuxième fois qu'ils reviennent sur notre championnat.
Ah ouais.
Donc ils connaissent déjà les difficultés de championnat. Et je vous dis encore, ils ont un budget assez intéressant, ils ont une belle équipe de joueurs professionnels et un recrutement judicieux. Donc je pense que c'est une équipe qui sera de toute façon difficile à jouer.
Ouais. Et puis sur un match, tout est possible, hein, que pour l'une ou pour l'autre équipe. Hein.
Tout à fait.
Voilà, ça c'est certain. Hein, ça, il faut mettre les ingrédients pour le gagner. Hein.
On y mettra.
Voilà. Allez, merci à vous et puis bonne chance pour les prochains matchs et puis on se retrouve dans le courant novembre. Hein, d'accord ?
Eh ben, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Bonne soirée à vous.
Eh ben, on va repartir en musique si j'ai bien compris.
Voilà. Oui.
Avec Denis Twist et tu dis que tu l'aimes.
Tu dis que tu l'aimes, mais tu sais très bien que même si tu y
Voilà, après le basket, le volley, il n'y a pas de handball. Enfin, si, on en a parlé avec monsieur Jean-Pierre Vandal, mais il n'y a pas beaucoup de matchs, étant donné que c'est la trêve internationale. On parlait maintenant rugby, où c'est la Coupe du Monde qui n'en finit plus au Japon, et on a été arrivé aux demi-finales ce week-end. La finale, ce sera samedi prochain. Et donc, il y avait deux matchs. C'est-à-dire, on avait un samedi et on avait un hier. D'abord, on va parler de la première rencontre où les Anglais ont battu les All Blacks, double tenant du titre, sur un score de 19-7. Donc, l'hémisphère nord a battu l'hémisphère sud. Bon, je n'ai pas vu le match pour d'autres raisons. Et donc j'ai vu quand même que les All Blacks ont fait le Yaka, comme d'habitude, avant le match. Et puis les Anglais ont répondu par un V de la victoire au centre du terrain. Donc on avait le Yaka d'un côté, puis le V de la victoire avant le match. Ils savaient qu'elle allait gagner. Le V des Anglais. Donc le 15 de la Rose a battu les All Blacks sur score de 19-7. Et l'autre match... Là, par contre, c'est l'hémisphère sud qui a gagné. Donc, les Sud-Afrique, l'Afrique du Sud a battu l'équipe des Gallois qui avait battu l'équipe de France à une pénalité de plus, c'est-à-dire, c'est vrai, et sur un score de 19-16. Donc, voilà. Donc, on aura une finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Voilà, comme on l'a eu ça, on a déjà eu des France, enfin des Angleterre, Afrique du Sud en finale, on les a déjà eu, hein. Notamment les Springboks, l'Afrique du Sud a gagné en 95 et en 2007 cette Coupe du Monde. Bon, je vois quand même l'Angleterre gagner cette finale de la Coupe du Monde. Ce sera samedi prochain. Ce sera donc là-bas au Japon. On va toujours parler rugby, mais chez les filles, pour dire que Lille Métropole Rugby Club était dans un bon jour à Lyon. L'équipe de Lille Métropole Rugby Club a battu l'équipe de Lyon sur un score de 39-3. Bon, il n'y a pas eu photo, hein. Donc, et le leader Toulouse a battu l'équipe de Romagna sur un score de 30-3. Donc, au classement, Toulouse est premier avec 26 points. Blagnac est deuxième avec 19 points. Et Lille Métropole Rugby Club est cinquième avec 13 points. Le dernier est en Caen, huitième avec 0 points. Le prochain match, ce sera, voilà, attendre un bon moment, que ce sera la septième journée, ce sera le dimanche 1er décembre à 13h. Le Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois aura l'équipe de Toulouse qui n'est autre que le leader actuel. Si le Lille Métropole gagne ce match, chapeau. Hein. Bon, on n'est pas encore là, il faut attendre un mois, hein. Un bon mois. On va parler Également rugby, mais non, là, c'est fini, parce que j'ai pas le résultat du club 14. Ah oui, si, c'est quand même un match pour dire que Marc Cambarol, c'est vrai, en fédéral 2, a gagné. Les dernières, ils avaient gagné tous les matchs. Et cette année, ils gagnent encore. Mais ils sont en égalité au classement avec une autre équipe. Donc, fédéral 2 plus le I, plus le A plutôt. Donc, Beauvais, le leader, avec Marc Cambarol, a battu l'équipe de Le Reux sur le score de 55 à 24. Et Marc Cambarol a battu Gennevilliers à l'extérieur sur un score de 43-14. Au classement, Marc Cambarol est premier avec 29 points et Beauvais également deuxième avec 29 points. Les équipes ont fait 6 matchs et 6 victoires. Le dernier étant l'Heureux avec 3 points. 6 matchs, 0 victoire. Voilà pour le rugby. Une petite passe musicale et on passera les sports individuels après.
Ok Henri, eh ben on va poursuivre avec Jackie Quartz, Vive ailleurs.
Parler maintenant de la Ronde des Sables, ce qui se déroulait la semaine dernière, c'était à Berck, où Nathan Lanson avait terminé deuxième. Donc, sur cinq précédentes, il avait fini cinq fois premier et une fois deuxième à Berck. Et hier, il a gagné l'épreuve à Landplage. Donc, victoire en moto de Nathan Manson, l'anglais, sur KTM. Deuxième, Geoffrey De Vulde, le belge, sur KTM. Troisième, Nico Potisek sur Yamaha. Jérémy Wauquiez a terminé 12e et Andrea Van de Beuren a terminé 14e. Au championnat, classement jusque maintenant, Watson est premier avec 285 points, De Vulde est deuxième avec 260 points, Potisek est troisième avec 235 points. Et les autres vainqueurs des courses, parce qu'il y avait une course quad où c'est Romain Croupy qui a gagné cette épreuve. Chez les juniors, c'est Bongan Krajewski qui a gagné. Skelan Prévost a gagné en espoir et Jérôme Bietz a gagné en amateur. On va toujours parler de sport mécanique pour dire que s'est déroulée une épreuve de Formule 1 ce week-end et ça se déroulait au Mexique. C'est Lewis Hamilton qui devra patienter parce que il a gagné quand même ce Grand Prix du Mexique, mais Vettel qui a terminé deuxième et puis Bottas qui a terminé troisième font qu'il n'est pas encore champion. Ce sera la prochaine fois. Donc au classement du Grand Prix du Mexique, premier Hamilton, 305 km 354 en 1h36 minutes 48 secondes et 904e. Deuxième Vettel, l'Allemand sur Ferrari, à 1 seconde et 766 millième. Troisième Bottas, le Finlandais sur Mercedes, à 3 secondes et 553 millième. Leclerc, le Monégas sur Ferrari, a terminé quatrième à 6 secondes et 638 millième. Gasly, le Français sur Toro Rosso, Honda, a terminé à un tour. Grosjean, notre Français sur Yas Ferrari, a terminé à deux tours. Au classement des pilotes, l'Anglais Hamilton sur Mercedes est premier avec 363 points. Deuxième Bottas, le Finlandais sur Mercedes est deuxième avec 280 points. Troisième Leclerc, le Monégas sur Ferrari, 236 points. Gasly, premier Français et sixième sur Toro Rosso Honda avec 77 points. Et Grosjean est 17e sur Yas Ferrari avec 8 points. Au classement des constructeurs, c'est acté. C'est Mercedes qui est premier avec 652 points. Deuxième Ferrari, 466 points. Et troisième Red Bull avec 341 points. On parlait français quand même. Renault est cinquième avec 73 points. Voilà. Alors, rallye. C'est Tamac qui met fin à l'hégémonie française parce que l'Estonien Ontanak sur Toyota s'est offert hier le premier titre de championnat du monde des rallyes, succédant à Sébastien Ogier, qui a été champion entre 2013 et 2018. Il a été deux fois champion, et Sébastien Loeb qui a été champion en 2004 et 2012. Avec 36 longueurs d'avance, le Belge Thierry Neuville sur Hyundai et 46 sur Roger Citroën à l'issue du rallye de Catalogne. 13e et avant-dernière manche de la saison, Tanak ne peut plus être rejoint au classement des pilotes. Voilà, donc il reste 30 points à prendre au maximum lors de l'ultime épreuve qui aura lieu en Australie du 14 au 17 novembre de cette année. Ogier a terminé 8e du rallye et a été mis hors jeu dès vendredi par un problème hydraulique. Voilà pour les sports mécaniques. Une petite pause musicale, on passera à notre des brèves après.
Ok. Gentle avec la légende de Jimmy.
Je l'aimerais à travers toi. Je t'aimerai à travers lui, et pour lui tu me donneras le meilleur de ta vie. Je l'aimerai à travers toi. Je t'aimerai à travers lui, et je me si tu étais lui. Menu déjà de Jimmy.
On va passer au tennis à Bâle. C'est en Suisse, le pays de Roger Federer. Bon, il a gagné. Hein. Roger Federer a été sacré pour la 10e fois à Bâle, le tournoi de sa ville natale, en étouffant le jeune Australien Alex de Minaur, 28e mondial, lors de 7-6-2-6-2 hier. Le maestro reste désormais sur une série de 24 matchs remportés consécutivement dans sa ville natale. Il ne s'est plus incliné depuis plus de 5 ans, quand Juan de Petro lui a résisté en finale en 2013. À 38 ans, le Suisse au 20 couronne record en chem s'est offert le 103e trophée, son 4e de la saison après Dubaï, Miami et Halle. Il n'est plus qu'à 6 unités du record de titre détenu par l'Américain Gene Connors avec 109 trophées, qui paraît de moins en moins inatteignable. Bon, à partir d'aujourd'hui se déroule l'Open 1000 Master 1000 de Paris-Bercy. On ne sait pas si Roger Federer sera participant, sachant que il est qualifié d'office pour le 3e tour, donc il ne fera pas le 1er et le 2e tour. Donc on verra à partir de mardi-mercredi s'il est à l'Open Paris-Bercy, l'Open Master 1000. Et il faut savoir que l'un des derniers objectifs de sa saison, ce sera le Master de Londres, du 10 au 17 novembre, qui réunissent les 8 meilleurs joueurs de l'année, sachant que Roger Federer est 3e. Donc il participera au Master 1000, au Master de Londres du 10 au 17 novembre. Toujours en tennis, l'Autrichien Dominic Thiem, numéro 5 mondial, a remporté hier devant son public le tournoi de Vienne, un tournoi ATP 500 venant difficilement à bout de l'Argentin Diego Schwartzman, numéro 15 en 3-7. Le premier set pour Diego Schwartzman avait 6-3, le deuxième 6-4 et le troisième 6-3 pour l'Autrichien Dominic Thiem. Voilà. Ensuite, on va passer en moto. Tout à l'heure, j'avais oublié quand même. Déjà sacré champion du monde, Marc Marquez, Honda, a remporté le Grand Prix Moto d'Australie hier devant Cal Kochov sur Honda et Jacques Miller sur Ducati. Tombé aux essais et touché à la cheville, le français Fabio Quartararo sur Yamaha a chuté dès le premier tour de la course, donc il a abandonné. En ski alpin, c'est le début de la saison. Alexis Paturo, l'un des grands favoris au classement général après la retraite de maître autrichien Marc Hichter, a parfaitement lancé sa saison avec une victoire hier sur le géant d'ouverture de Solden en Autriche devant son compatriote Mathieu Fabre pour un doublé français. Chez les dames, la néo-zélandaise Alice Robinson, qui fêtera ses 18 ans en décembre, a impressionné en remportant le géant samedi devant la grandissime favorite Michaela Schifrin et la française Tessa Worley. En waterpolo, grâce à sa victoire en Ukraine, 13-6, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les championnats d'Europe de Budapest du 12 au 26 janvier. Les Bleus, qui disposaient d'une avance de confortable après le match aller 21, rencontrant en phase de poule l'Espagne, l'Israël, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Voilà pour cette page de bref. Encore que je vais parler maintenant d'une fille qu'on a de temps en temps dans les studios. Parlons de natation. Alors, de qui je veux parler?
Cyrielle Duhamel.
Tout à fait. Alors, Cyrielle Duhamel s'est manifestée comme il faut hier au meeting de Berck. Donc ce week-end à Berck, le 11e meeting national de natation du Pas-de-Calais, réunissant 369 nageurs, a servi de préparation en vue des championnats de France d'Angers en petit bassin au mois de décembre prochain. En l'absence de Bertil Housson, Océane Carnet et Lison Majewski, ces trois filles qu'on a déjà eues dans les studios, actuellement en stage avec le groupe France à Fort-Romeu, en Haute-Pyrénées, Cyrielle Duhamel s'est illustrée. La nageuse du public en club béthunois a notamment battu le record du meeting sur le 100 mètres brasse en 1 minute 11 secondes et 50 centièmes, confirmant par la même occasion son retour en forme. Après des ennuis de santé la saison dernière, Duhamel, qui a intégré dernièrement la liste des sportifs de haut niveau, revient donc sereine. On a entendu qu'elle se soigne et on attend qu'elle termine l'école de police qui demande beaucoup en sport pour préparer les championnats d'Europe en bassin de 50 mètres, indiqué son entraîneur Grégoire Lefebvre, qu'on a déjà également reçu dans les studios matin et matin. Deux autres béthunois ont signé de bons chronos, Maxence Dessouer, prétendant au championnat d'Europe de natation en eau libre au mois de juin 2020, a bouclé le 800 mètres nage libre en 8 minutes 11 secondes et 80 centièmes. Mathieu Bourgeois a quant à lui réalisé le 100 mètres papillon en 55 secondes et 25 centièmes. Donc au classement des 3 meilleurs nageurs à l'addition des 3 meilleures performances du week-end, chez les dames, c'est première Cyrielle Duhamel de Béthune, deuxième Terra de Caen et troisième Oudounou de Béthune. Chez les messieurs, c'est Desquois de Béthune qui est premier, deuxième Gontier de Calais et troisième Denis d'Arras. Voilà. Ben, c'est bien. Malheureusement, Jean-Bernard Pouillet n'est plus président. C'est monsieur Carpentier qui le remplace et il donne plus de nouvelles. Donc je vais devoir sûrement téléphoner à monsieur Grégoire Lefebvre pour avoir le public en club une fois avant la fin de l'année.
Ok.
Dans nos studios, peut-être après les championnats de France qui auront lieu prochainement, voilà. Là. Après, peut-être. Ouais. Bon, je ne crois pas qu'on les aura avant. Ça, c'est au mois de décembre. Oh, encore un mois, hein. Donc, on va essayer de les avoir au mois de novembre. Allez, allez, on fait pari là-dessus. Allez,
allez,
allez, on verra bien. Allez, passe du cas, ouais. On passera. On va bientôt terminer par le football. Hein.
Ouais, je le pense. Ouais, après, ce sera l'heure de se quitter en Russie.
Voilà, tout à fait.
Eh ben, le groupe Mécano, une femme avec. Une femme.
Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules. Comme elles n'ont rien à perdre, après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret, même une nuée ne pourrait le cacher. pâleur sous les yeux des autres. Dans la ruelle déguise en amitié, l'une des deux dit que c'est mal agir. Et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à dehors à du sol? Une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Jeter la première pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tousser. Si ça m'interroge, je n'ai qu'à m'en aller. Avec mes pierres, elles construiraient leur forteresse. Qui arrête les colombes en plein vol à dehors à du sol? Une femme avec une
allez, le groupe Mécano avec une femme, avec une femme. On laisse le micro à Henri pour terminer l'émission Sport Plus.
Voilà, avant de parler football, quand même un mot de boxe pour dire que Ségolène Lefebvre, disons, elle a gagné, elle a conservé le titre mondial WBF, à ceinture acquise face à la Vénézuélienne Lozano, qui a pourtant laissé un goût inachevé parce que les juges ont donné vainqueur indiscutable à Ségolène Lefebvre, mais ça n'a pas toujours été évident. Donc ils se sont peut-être trompés à un certain moment. Ben, la victoire à l'unanimité, bon, donc elle a conservé son titre, voilà. Et en ce moment, c'est la transat de Jacques Vabre, donc qui ont démarré du Havre pour aller jusque Salvador de Bahia en Brésil. Bon, il y a Thomas Rouillant qui est sur cette course. J'en dirai pas plus parce que j'arrive pas à voir les informations en temps réel sur Internet. Mais Thomas Rouillant, le Dakarquois, sera un nouveau bateau avec Antoine Coche sur Adventor Cybersécurité. A eu un petit problème hier à Vera de bord sur son bateau. Il a dû s'arrêter à Cherbourg. C'est marqué, c'était une intervention rapide, mais il a quand même passé 4 heures. Hein. Donc, il a perdu beaucoup de temps avec cet incident. Maintenant, on va parler de l'IDA avec Paris qui poursuit sa course en tête. Les résultats, on va les donner vite fait quand même. Nantes a été battu chez lui par Monaco, qui revient bien au classement. Monaco a gagné à Nantes 1-0. Victoire de Brest contre Dijon 2-0. Le LOSC a battu Bordeaux 3-0. Avec un petit pépin pour Osimhen qui s'est blessé, qui sera, disons, indisponible pendant presque un mois. Lyon a battu Metz 2-0. Montpellier-Angers 0-0, Reims-Nîmes également 0-0, victoire de Strasbourg contre Nice 1-0, large victoire du Paris Saint-Germain avec deux buts de Raski et puis deux buts de Mbappé, donc 4-0 contre Marseille. Rennes a battu Toulouse 3-2 et Saint-Etienne et Amiens se sont quittés sur un match nul de 2 partout. Au classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 27 points, 9 victoires et 2 défaites, avec une différence de but de plus 20. Deuxième, Nantes avec 19 points, ça fait quand même 8 points d'écart, avec un avantage de plus 2 au goal average. Le LOSC qui est troisième avec 18 points, avec un avantage de plus 6. Lyon, on n'est que 13e avec 13 points. Marseille, lui, est 7e avec 16 points. Dans le bas du classement, Nîmes, premier relégable avec 18 points. Ah non, 18e avec 11 points, 19e Metz avec 11 points et le dernier Dijon avec 9 points. La prochaine journée, bah avant on va passer demain, bah ça sera la Coupe de la Ligue des 16e de finale où Lens jouera à Nîmes. Donc à 18h45 et ceux qui ont Canal+, ils verront ce match sur Canal+ Sport. Ça sera télévisé à 18h45. Et ensuite, la journée de championnat, ce sera le vendredi 1er novembre, on aura Dijon contre Paris Saint-Germain, donc le dernier contre le premier, et Marseille rencontre le LOSC le samedi 2 novembre à 17h30. On parlait de Ligue 2 maintenant, pour donner les résultats, Lens a fait match nul à Nancy 0-0. C'est vrai qu'il doit son match nul à la très grande performance de Jean-Louis Leca dans les buts. C'est vrai qu'il a été au moins 5 tirs vraiment cadrés, notamment une détente du point. Franchement, le ballon va sur le point et il n'est pas but. Hein. Donc, c'est vrai, un match qui sait, c'est lui qui est. Il y a eu 8 sur 10 au classement d'ailleurs. Les résultats, Grenoble a gagné Auxerre 1-0, Clermont a gagné à Guingamp 2-1, victoire de Le Mans contre Niort 1-0, Nancy Lens donc 0-0, Orléans-Châteauroux match nul 1 partout, le Paris Football Club a été battu chez lui par Caen 4-2, victoire de Rodez contre Chambly 2-0, victoire de l'AC Ajaccio 2-0. Et une surprise quand même, c'est la victoire de 3 contre Lorient, le leader, 1-0. Et ce soir, à 20h45, se déroule le match entre Valenciennes et Le Havre. La 13e journée, bah, ce sera le choc le samedi 2 novembre à 15h, où Lens, en cas de victoire sur Lorient, bah, prendrait la tête provisoire du classement de Ligue 2. On n'est pas encore là, hein. Faut le gagner ce match. Ouais. Et puis il y aura un match de demain contre Nîmes, à Nîmes pour la Coupe de la Ligue. Et Valenciennes, dans le même temps, jouera le vendredi 1er novembre à 20h et il se dépassera à 3. Au classement, Lorient est premier avec 24 points, deuxième Lens 22 points, troisième Ajaccio avec 22 points. Également avec 22 points, on trouve 3 avec 22 points. Cinquième Sochaux avec 19 points, Valenciennes est 13e avec 16 points. Dans le bas du classement, 18e Le Mans avec 9 points, Châteauroux 19e avec 8 points et le Paris Football Club est 20e avec 8 points également. Voilà,
c'est la fin, Henri.
On se retrouvera la semaine prochaine. Pour l'instant, pas d'invité. On verra bien ça. Et pas d'émission 56K.
Non.
Bon, pas de lumière, c'est qu'ils ne sont pas là. Ouais. Donc, bonsoir à tous mes auditeurs. On se retrouve donc lundi prochain.
Exactement.
Et toi, on retourne à partir de jeudi.
Jeudi, ouais, pour Tous en scène et plus en compagnie de la Dame Brune et ses invités. Et attention, pas d'émission Love Generation ce vendredi pour cause de 1er novembre.
Par contre, il y aura les dédicaces dimanche.
Ah, je serai présent pour les dédicaces dominicales. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr.
On essaiera d'aller là-bas à Arnes pour faire quelques interviews, voir les filles. Hein. Oh,
exactement.
Voilà, réussir. Pour la première fois de la saison, d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
Allez, bonne soirée à tous sur Radio Plus.